Un sujet sur la dernière bataille de Napoléon, Waterloo. Waterloo, Waterloo, morne plaine. Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine, dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, la pâle mort mêlait les sombres bataillons. Victor Hugo, Les Châtiments. D'histoire. Il aura suffi d'une seule défaite pour que Napoléon perde à Waterloo le bénéfice de toutes ses victoires. 8 heures de combat dans une plaine de Belgique pour que s'effondre un empire conquis sur le pont d'Arcole, à Marengo, au pied des pyramides, à Austerlitz ou à Wagram. Mais au lieu d'entamer la légende napoléonienne, la victoire des Anglais de Wellington et des Prussiens de Blücher à Waterloo n'a fait que l'agrandir en donnant au destin de Napoléon une conclusion à la mesure de celui qui avait fait trembler pendant 20 ans toutes les têtes couronnées d'Europe. Celle qu'il avait une fois de plus coalisée contre lui quand en 1815, il était revenu en France après un exil de 10 mois sur l'île d'Elbe.
Ils ont osé. Ils me dénoncent comme ennemi de l'humanité. Toute l'Europe part en guerre contre moi. Pas contre la France, mais contre moi. Quelle nouvelle attend de Wellington ?
Toujours à Bruxelles, si.
Toujours avec le vieux Blücher ?
C'est eux qui nous déclarent la guerre. On ne leur fera payer.
Oui, on ne leur fera payer. Et puis, je signerai la paix sur les cadavres du duc de Wellington. Ce sera la plus belle des paix.
Les armées de Wellington et de Blücher se sont séparées, sire.
Séparées ?
Oui, sire.
Je me demande ce que l'histoire dira de ces hommes. Voilà mon plan. Nous allons surprendre Blücher à droite et après nous fonçons sur Wellington, Soult.
Oui, sire.
Une offensive est claire. Je les désorganise. La victoire dépend de cette première bataille, comme à Marengo.
Jean Tullard, bonjour.
Bonjour.
Alors vous qui êtes un spécialiste de l'histoire de Napoléon, mais aussi un cinéphile, vous avez sûrement reconnu l'extrait, ou plutôt le film, on va tirer un extrait, un film qui nous servira d'ailleurs de fil rouge pendant toute cette émission.
C'est le film de Bondarchuk, film tourné au moment du dégel, puisque le producteur était italien, Laurentiis, que le réalisateur Bondarchuk était un russe et académicien et député au Soviet suprême, et que les acteurs sont des acteurs anglo-saxons, dont Orson Welles, qui fait Louis XVIII, et Rod Steiger, Napoléon.
Et les figurants des Russes, parce que je crois qu'il a été tourné en Russie.
Oui.
Et puis alors, c'était un film. Est-ce qu'il est fiable, ce film ?
Ah, il est très fiable, il est très sérieusement fait, et je dirais qu'il est remarquable dans la mesure où il aide à comprendre, à travers des images filmées en hélicoptère, il aide à comprendre comment la charge de nez s'est brisée sur les carrés anglais.
Alors, on y reviendra, mais alors Waterloo, ça fait évidemment partie des grands moments du destin de Napoléon auquel vous venez de consacrer votre dernier livre chez Fayard. Un destin que Napoléon va jouer à Waterloo sur un coup de poker, un coup de dé, dites-vous, Jean Tullard.
Un coup de dé, parce que, en réalité, Napoléon se trouve désormais face à la coalition de toutes les puissances européennes. Au congrès de Vienne, il a été mis hors la loi. C'est-à-dire, s'il perd, il ne sera pas jugé. D'ailleurs, il ne le sera pas. Il sera déporté à Sainte-Hélène sans jugement, ce que l'on ne comprend pas. Il est au banc de l'Europe et l'ensemble de l'Europe est coalisé contre lui. Il faut donc qu'il remporte très vite une victoire éclatante pour démoraliser les adversaires et faire se dissoudre cette coalition de toutes les puissances européennes contre la France.
Et en les attaquant, avant même que eux prennent l'offensive, vous le rappelez, il y a en Belgique les deux armées. Cette coalition, elle comprend la Russie, elle comprend l'Autriche, mais elle comprend aussi l'Angleterre et la Prusse. Ce sont ces deux derniers pays qu'il va trouver en face de lui en Belgique, qu'il attaque. Et vous dites qu'au fond, c'est peut-être là sa première erreur. Je ne sais pas si c'est vous qui le dites ou Clausewitz qui vous le faites dire. Parce qu'au lieu de rester sur la défensive, il attaque.
Oui, il attaque parce que c'est son tempérament d'attaquer, parce qu'il joue la surprise. Or, il a la chance d'avoir des contingents prussiens sous le commandement de Blücher et des contingents anglais sous le commandement de Wellington qui ne sont pas extrêmement redoutables, qu'il peut vaincre. Il n'a jamais affronté Wellington, mais il a affronté déjà Blücher et il méprise les soldats anglais. Donc, en attaquant immédiatement en Belgique, en détruisant les forces anglaises et les forces prussiennes qui sont installées dans le pays, il prend un avantage substantiel avant que les forces russes, qui sont très lentes à mobiliser, avant que les Autrichiens n'attaquent. Donc il marque déjà un point, une victoire. Il espère démoraliser ainsi l'ennemi.
Il va le faire avec une armée du Nord qui représente à peu près la moitié, vous le rappelez Jean Tullard, de l'ensemble des effectifs d'une armée française qui compte 250 000 hommes. Mais l'autre moitié se trouve sur le Rhin avec Rapp, les Alpes, les Pyrénées, la Vendée aussi où il y a
une guerre qui continue. La Vendée s'est soulevée en plus. Et oui. Le général Lamarque est bloqué avec quand même des forts contingents pour résoudre l'insurrection vendéenne. Et n'oubliez pas que toute l'Europe étant coalisée contre Napoléon, ce sont toutes les frontières qui sont menacées.
Alors la moitié des forces cependant, des 250 000 hommes, donc sont dans cette armée du Nord, 125 000 hommes, dont Napoléon prend personnellement le commandement et entre en Belgique avec elle le 15 juin 1815, trois jours avant la bataille, alors que le duc de Wellington assiste à un bal près de Bruxelles, chez le duc de Richmond.
Veuillez m'excuser.
Votre grâce, Napoléon...
Je suis informé, Muffling. Napoléon a franchi la frontière.
Avec le gros de ses forces, il est arrivé à passer entre nos armées.
Où ça?
À Charleroi.
Charleroi.
Désirez-vous que j'interrompe le bal, Arthur?
Non, évitons d'alarmer. Les officiers retenus par les dames continueront à danser. Roxbury, faites partir immédiatement vos cavaliers vers Charleroi. Picton, votre division se mettra en route cette nuit.
Il y a quatre routes ici.
Les quatre bras, il est obligé de passer par là.
Si nous ne pouvons pas l'arrêter là, je l'arrêterai ici.
Et ici, eh bien, ce sera Waterloo, hein, c'est l'endroit que montre Wellington sur la carte où aura lieu la bataille. Wellington n'était pas un inconnu, il avait déjà eu affaire à lui, Napoléon.
Pas directement, mais je voudrais revenir sur la séquence du bal. Je vous rappelle qu'elle vient directement de Sacré, de Vanité Fair. Et il y a eu une adaptation, d'ailleurs, de Vanité Fair par Mabouliane, où on voit déjà ce bal qui est mythique et qui a réellement eu lieu. C'est au cours d'un bal qu'on a appris que Napoléon avait franchi la frontière de Belgique et donc attaqué. On ne s'y attendait pas, on ne pensait pas qu'il allait si vite. Et voyez, c'est l'effet de surprise. Et en même temps, alors revenons à Wellington, le sang-froid que suggère bien l'extrait que vous avez donné de Wellington. Wellington, c'est un homme qui est très sûr de lui, très calme, que Napoléon n'a jamais affronté directement, mais il aurait dû se méfier.
Mais quand je dis qu'il a affaire à lui, c'est parce que c'était son adversaire ou l'adversaire des Français en Espagne.
En Espagne et au Portugal, c'est les fameuses lignes défensives, le Torres-Vedras. Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans ce match Wellington-Napoléon, j'emploie à dessein le terme de match, c'est que vous avez l'attaque Napoléon contre la défense Wellington. Et vous savez que c'est la même chose en football. Il y a les équipes qui attaquent et les équipes qui défendent. Et là, donc le grand problème, c'est de savoir qui l'emportera, ou de la défensive ou de l'attaque. Donc vous voyez, il y en a un qui a déjà impétueusement passé en Belgique et l'autre, calmement, qui laisse terminer le bal, mais est prêt à se défendre.
L'idée étant de la part de Napoléon, il apprend que ses armées, les Anglais de Wellington et les Prussiens de Blücher étant séparés, comme il ne peut pas les battre en même temps parce qu'il n'a pas d'effectifs suffisants, il va les battre séparément parce que Wellington dispose d'environ 112 000 hommes qui n'étaient pas tous anglais d'ailleurs. Oui. Hein, il y avait d'autres soldats de la coalition qui étaient avec Wellington et Blücher, lui, était plus loin, était éloigné de Wellington. Blücher, un personnage aussi assez extraordinaire. D'abord, c'est un vieillard, surtout pour l'époque, hein, 73 ans sur le champ de bataille.
Ce qui n'est pas étonnant, Napoléon affrontait constamment des généraux autrichiens qui étaient extrêmement âgés. Et c'est ce qui explique souvent ses victoires. Dans le cas de Blücher, il s'agit d'un maréchal prussien qui a connu la défaite d'Iéna, qui a été l'un des vaincus de la campagne de 1806-1807 et qui est avide de revanche. C'est un homme très dur, impitoyable et qui veut véritablement que la Prusse triomphe de la France. Donc, la stratégie de Napoléon que vous avez évoquée, qui est de séparer, il s'est fait Wellington de Blücher, et ensuite de se retourner contre l'un pour l'anéantir, puis contre l'autre pour l'anéantir à son tour. C'est ce qui était la campagne d'Italie, ce qu'a été la première campagne d'Italie, c'est ce qu'a été la campagne de France de 1814. Alors, il a donc d'un côté Ney, qui l'oppose aux Anglais, puis Grouchy et Grouchy, qu'il oppose aux Prussiens, et lui, avec le reste de ses forces, est au milieu, et tantôt il se porte sur une aile, tantôt il se porte sur l'autre. Donc c'est la stratégie napoléonienne, tout à fait classique.
Mais avec des généraux peut-être moins talentueux, moins expérimentés. Enfin, ils ont de l'expérience, mais ils ne sont pas forcément aussi doués que n'étaient les généraux qui ne sont plus avec lui, parce qu'ils l'ont quitté, parce que certains l'ont trahi. Il y en a même un, d'ailleurs, Bourmont, qui le trahit le premier jour, le jour même où il entre en Belgique et qui va se rendre prussien.
Et qui va c'est un Vendéen, n'oubliez pas, un Vendéen rallié à Napoléon, mais il est de sympathie royale. Et donc, effectivement, il passe à l'ennemi avec les plans de Napoléon. Les autres, eh bien, si vous me permettez, j'ai employé tout à l'heure le vocabulaire du football, employons celui du cinéma, le casting n'est pas bon. Le casting n'est pas bon parce que le chef d'état-major pour cette campagne, c'est Soult, qui est un bon stratège, mais pas un chef d'état-major. Un chef d'état-major doit avoir constamment présent à l'esprit, comme un ordinateur, les forces, les remplacements, etc. Celui qui était remarquable, c'était Berthier, mais il est mort, il s'est jeté, ou on l'a précipité d'une fenêtre en Allemagne, donc il n'est pas là. Pour les charges de cavalerie, n'est pas là non plus Murat, qui est en disgrâce et qui était le cavalier par excellence. C'est donc Ney qui le remplace.
Le brave des braves.
Le brave des braves. Oui, est un peu brave, oui. Et donc il n'est pas véritablement l'homme des charges de cavalerie. Il a été admirable dans la retraite de Russie, mais là, il s'agit d'attaquer.
Et puis il y a Grouchy, parce que il y a cette bataille, on parle toujours de Waterloo le 18 juin, mais deux jours avant, il y a cette bataille importante, vous venez de l'évoquer d'ailleurs Jean Tullard, c'est Napoléon qui bat les troupes de Blücher, Blücher est obligé de se replier, et Napoléon, qui va se retourner ensuite de l'autre côté vers Wellington, Napoléon dit à Grouchy, suivez-le. Ça, c'est une chose qui va être très importante dans le sort de la bataille. Grouchy va suivre Blücher, mais Blücher va lui échapper.
Oui, et parce que au fond, on n'a pas réussi à anéantir, comme on aurait dû le faire à Ligny, Blücher, pour la raison fort simple, c'est qu'il y a un corps, le corps de Drouet d'Erlon, qui fait la navette entre les quatre bras où Ney est aux prises déjà avec les Anglais, et Grouchy, qui est aux prises avec les Prussiens à Ligny. Donc si Drouet d'Erlon avait été à Ligny, il est évident que Napoléon aurait pu anéantir Blücher. Là, il n'a pas eu assez de force, et donc Blücher lui a échappé, et Grouchy doit le poursuivre et le contenir, pendant que Napoléon, dans un deuxième mouvement, se porte au secours de Ney pour attaquer les Anglais qui ne sont plus aux quatre bras, mais qui sont maintenant à Waterloo.
Alors là, nous sommes le soir de Ligny le 16. Le 17, Napoléon ne fait rien. Son avance vers Waterloo, vers Wellington, est ralentie par vraiment un grand allié des Anglais. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est la très forte pluie. Nous sommes au mois de juin, mais il pleut énormément. Et la boue qui en résulte.
Alors la boue, c'est important, puisque, comme je vous l'ai dit, Napoléon, c'est la rapidité et la surprise. Or, évidemment, ses troupes enlisées n'avancent pas aussi vite, ne peuvent pas surprendre les Anglais. Donc la boue, c'est déjà un facteur de ralentissement pour un homme pressé comme Napoléon. Et d'autre part, nous sommes sur une plaine à découvert où il ne peut pas y avoir ces effets de surprise, où on tombe sur les arrières de l'ennemi. Et le champ de bataille de Waterloo est extrêmement étroit. Donc, aucun mouvement possible. Bref, Napoléon doit manœuvrer dans une situation qui ne lui est pas du tout favorable. Le terrain ne l'est pas.
Et dans une boue qui l'oblige à attendre le 18 juin pour attaquer Wellington, qui est à quelques kilomètres devant lui.
Nous avons besoin de 4 heures. Le terrain est trop mou, il est impossible de faire avancer l'artillerie.
Si j'avais attendu 4 heures, j'aurais perdu la bataille d'Austerlitz.
Si nous pouvions attaquer à midi, cela vaudrait mieux.
Les batailles se gagnent ou se perdent en moins d'un quart d'heure.
Bon.
Nous verrons bien. Nous commencerons l'attaque ici, à Hougoumont.
Messieurs, c'est l'ouverture du bal.
11h35 minutes, votre grâce.
La trompette sonne, le clairon résonne, le coursier frissonne, prêt à s'échapper. L'ennemi s'agite pour couvrir la fuite de ses corps d'élite. La mort va frapper, la charge sonne, le bronze tonne, le boulet sillonne, moissonne les rangs. Et la fumée dans l'air se met, couvre l'armée de ses noirs. La garde s'engage, s'ouvrant un passage au sein d'un nuage d'épaisses vapeurs. Nos vieilles moustaches montrent leur panache, flottant sur les haches de nos vieux sapeurs. Comme la foudre qu'on voit dissoudre et mettre en poudre des cèdres altiers. Leurs lèvres percent, leurs coups dispersent, leurs bras renversent des carrés entiers. L'ennemi succombe, il chancelle, il tombe, et bientôt la tombe reçoit ses débris. Les soldats pâlissent, les coursiers frémissent, les airs retentissent de funestes cris.
Et c'est une chanson anonyme de 1821, la bataille de Waterloo, chantée par Gilles Elbaz. Une bataille qui commence donc à 11h30, on vient de l'entendre, le 18 juin 1815. Il est difficile d'évoquer une bataille à la radio sans qu'on puisse montrer une carte, mais en gros, quel a été le plan de Napoléon?
Alors, vous avez deux armées face à face. Il n'y a pas de terrain comme à Austerlitz avec le plateau de Pratzen. Il est beaucoup plus agréable de commenter Austerlitz, où la manœuvre de Napoléon est ingénieuse, que là où ce sont des attaques frontales. Napoléon veut attaquer essentiellement les Anglais par la ferme de Papelotte, parce qu'il sait que c'est de ce côté que risque de déboucher Blücher, s'il a échappé à Grouchy.
C'est sur la droite. Imaginons à une carte, au nord, adossé à Waterloo, qui est encore plus au nord, il y a Wellington, donc, et au sud, il y a Napoléon, donc, cette ferme est à, et sur la droite, il y a également Hougomont qui est sur la gauche,
il veut
les prendre, donc, pour pouvoir attaquer frontalement.
Donc, il s'agit d'enfoncer les Anglais sur ce qui lui paraît être dans le dispositif de Wellington, le point faible, c'est toujours là où il faut attaquer, et empêcher que les Prussiens n'arrivent à temps. Quand les Prussiens déboucheront, il n'y aura plus d'Anglais, il y aura les Français qui les attendront. C'est alors que l'armée française découvre ce qu'est l'Angleterre, ce qu'est la force terrestre anglaise, car hormis Masséna aux lignes de Torres Vedras, hormis jadis régné à la bataille de Maïda, qui est une bataille extrêmement importante, j'ai mis en valeur dans mon livre, parce que c'est la répétition de Waterloo, on ne savait pas que les Anglais, les carrés anglais, avaient un tir extrêmement précis. Les charges françaises sont des charges furieuses, mais qui sont arrêtées nettes par la précision et l'efficacité du tir anglais. Bref, l'attaque de Papelotte échoue. Les Français sont décimés. Les canons vont jusque, les canons anglais en font jusqu'à 20 rangs. À ce moment-là, Napoléon doit changer son dispositif et donc il va attaquer cette fois au centre. Et c'est au moment où il attaque au centre qu'il va découvrir que les Prussiens ont échappé à Grouchy.
Il voit arriver, effectivement, c'est vers 13h30 peu près, alors que ils n'ont pas réussi non plus à prendre la ferme de Gaumont. Il voit arriver les Prussiens. Grouchy a échappé, le Prussien Blücher a échappé à Grouchy, qui lui croyait que, enfin, ne se pressait pas. On lui dit de marcher au canon, on entend le canon de Waterloo, et on lui dit, mais allez-y, pas du tout, il prend son temps, et c'est ainsi que, au lieu de partir vers le nord, eh bien, Blücher fonce vers Wellington, pour lui apporter du secours. Ce n'est 13h30, il n'est pas encore là, et Napoléon, à ce moment-là, se considère qu'il faut aller vite pour prendre Wellington. Il attaque le plateau où se trouve Wellington. Wellington recule de quelques mètres, ce qui va faire croire aux Français que c'est une retraite, et ce qui va provoquer une des initiatives françaises les plus désastreuses de la bataille, la charge des cuirassés français du maréchal Ney.
Wellington va en retraite! Wellington va en retraite! Guignan, suivez-moi!
Nous sommes avec vous! Chargez!
Trompette, sonnez la charge! Chargez!
Et qu'est-ce que fait le maréchal Ney? Je ne voudrais pas quitter le champ de bataille d'une minute. Pourquoi agit-il de la sang? C'est insensé de prendre l'offensive avec la cavalerie sans le soutien de la l'infanterie.
Ça, c'est un des moments forts de la bataille, un des plus forts aussi d'ailleurs du film.
Ah, le film est admirable.
Extraordinaire. Admirable. Alors, cette charge de Ney complètement démente, vous parlez d'ailleurs d'une mer d'acier, ce sont ces cuirassés qui foncent vers les Anglais.
Et le film rend bien la chose, c'est-à-dire que cette charge, s'il y avait une ligne continue en face, elle serait brisée, elle serait emportée. Or là, les Anglais, ce sont des carrés. Et le film qui filme en hélicoptère en haut, vous montre comment les cavaliers français sont forcés de tourner autour des carrés anglais, comme dans les westerns, vous savez, les Indiens qui tournent autour des chariots. Et la cavalerie est décimée par cette offensive suicidaire. D'ailleurs, il y a une forme de suicide dans cette affaire chez Ney, qui a cherché la mort à plusieurs reprises sur le champ de bataille, parce que Ney reste profondément troublé par le fait qu'il a, lui, véritablement trahi Louis XVIII. Il devait ramener Napoléon dans une cage de fer, et il n'a pas réussi et s'opposer à lui. Au contraire, il s'est rallié à Napoléon. Donc il sait que si Napoléon perd, son destin est scellé. Mmh. Donc cette charge de cavalerie admirable est en même temps folie, un peu comme la charge, car nous aimons français les charges, la charge d'Azincourt, des seigneurs français, qui finit sur les archers anglais. C'est la même chose.
Plus tard, en 1870, Richefeuille, oui, la dernière charge, oui, de cavalerie. Mais bon, là, c'est vraiment une initiative de Ney assez malheureuse. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est quand même que jusqu'à la dernière minute, malgré cette charge désastreuse qui a fait des victimes très nombreuses, eh bien, on a l'impression que le sort, c'était totalement indécis à 18 heures même. Voilà que les Français s'emparent d'une ferme qui s'appelle La Haie Sainte, oui, et Napoléon envoie à Paris, il est 18h, c'est-à-dire 2 heures avant la défaite, il envoie à Paris un communiqué de victoire.
Oui, en réalité, la victoire aurait pu très bien se dessiner en faveur de Napoléon. Ce qui se passe, c'est malgré tout la présence des Prussiens sur les flancs français, cette façon qu'ont les Prussiens de surgir qui va imposer une idée dans l'armée française, qui est une armée troublée, l'idée de trahison. On a été trahi. Et tout à coup, ce mot de trahison va s'amplifier. N'oubliez pas, il y avait eu les trahisons de 1814, Talleyrand et compagnie. Et donc, les maréchaux, certains s'étaient ralliés à Louis XVIII. Donc, les soldats n'ont pas confiance dans leurs officiers.
Les Prussiens, on les trahit ! Taillons-les en pièces ! Taillons-les en pièces ! Suivez-moi ! Comment meurt un maréchal de France? Tire, la bataille est perdue! Vous êtes fauchis! Courageux Français, vous avez fait tout ce que l'honneur exigeait. Le duc de Wellington souhaite vous épargner la vie. Est-ce que vous consentez à vous rendre?
Merde! La garde mort et ne se rend pas!
Et c'était la fin de la bataille de Waterloo. À 18h, Napoléon était sûr de l'avoir gagné. À 20h, c'est fini. On entend Cambronne prononcer son célèbre mot. Il paraît, Jean Tullard, qu'il ne l'a jamais dit. En tout cas, il a toujours nié avoir dit merde.
Il a nié l'avoir dit. La garde meurt, ne se rend pas. On n'est pas certain non plus. Ce qu'il y a, c'est que il fallait maintenir cette idée, parce que les grands événements de Waterloo, c'est que la garde a reculé. Oui. La garde s'est finalement débandée. La garde qui était
l'élite.
Sommet, l'élite de l'armée française. Et là, à Waterloo, elle va se débander, elle va reculer. Et seule, un carré va rester autour de Cambronne pour sauver l'honneur de la garde. Alors, le mot de Cambronne, vous avez inspiré une très jolie pièce à Sacha Guitry, le mot de Cambronne ou son épouse anglaise, vous voudrez savoir quel est le mot de Cambronne, et le mot de Cambronne sera finalement prononcé par la servante qui laisse tomber la soupière.
Oui, vous dites une chose peu connue, c'est qu'effectivement, Cambronne a épousé une anglaise.
Oui, après. Il a épousé une anglaise.
Il n'était pas rancunier. Alors, Napoléon quitte le champ de bataille. Ce qui est très surprenant, c'est que malgré cette défaite, une des très rares défaites, la première vraiment flagrante, parce que c'est vrai qu'il y a eu le drame de la Russie, la retraite, il y a eu l'Espagne où elle s'est enlisée, là c'est vraiment une défaite sur le champ de bataille, la première et évidemment la dernière, et bien malgré tout, il imagine, il croit qu'il va pouvoir encore renverser la situation, il quitte le champ de bataille, il se rend à Paris et dit, mais non, je vais pouvoir lever des troupes, pas du tout.
Parce que l'armée de Grouchy n'a pas été...
30 000 hommes.
Elle est intacte, ouais. Puisqu'elle n'a pas donné à Waterloo. Elle est donc intacte. Napoléon peut espérer un sursaut national. C'est là où l'idée de Clausewitz, que si le territoire français avait été envahi, si Napoléon avait laissé le territoire français envahi, il y aurait eu un soulèvement national. Il compte encore sur les gardes nationales. Bref, il a encore des possibilités, il a des ressources pour continuer la lutte. En réalité, le ressort est brisé, car il n'a eu affaire jusqu'ici qu'à des contingents prussiens et anglais, et les grandes forces russes et autrichiennes, et même le reste de l'armée prussienne, n'ont pas encore donné.
C'est pour ça qu'on peut se demander, au fond, si, même, admettons même qu'il ait gagné, car ça était possible à Waterloo.
Oui.
En fait, c'était fichu quand même avec tout ce qui... Vous le faites dire à Fouché, d'ailleurs, qui en mai 1815, donc un mois avant Waterloo, disait « Je vous déclare que malgré l'assurance qu'en a donnée Napoléon, toute l'Europe va lui tomber sur le corps. Il gagnera peut-être une ou deux batailles, il perdra la troisième, et alors ce sera notre rôle à nous qui commencera. » Donc
c'est vraiment... authentique, le mot est authentique. Oui. Hein, parce
donc
qu'il
il
est
ne croyait
dans...
pas lui-même.
Non, il est dans les mémoires de Thibaudeau, il est dans les mémoires de Pasquier, donc c'est vraiment Fouché l'a dit, puisque les deux auteurs ne pouvaient pas s'être concertés, donc effectivement personne ne croyait en juin 1815 à l'avenir de l'Empire libéral.
C'est plus qu'une bataille et une défaite qui va conduire Napoléon à abdiquer le 22 juin, puis être envoyé à Sainte-Hélène où il terminera ses jours. C'est quand même, on a l'impression un peu, avec ses grandes charges de cavalerie, c'est un peu la dernière guerre du 18e siècle, même si on est 15 ans après le début du 19e. On a l'impression que c'est des guerres comme ça, on n'en verra plus. Ensuite, il y aura des guerres beaucoup plus dures, avec un armement encore plus puissant. Il y a eu beaucoup de morts à Waterloo, il y en aura beaucoup plus après, Jean Tullard.
Oui, alors le nombre des morts de Waterloo est difficile à déterminer parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont déserté sur le champ de bataille. Et l'armée a été complètement dispersée, ce qui fait qu'il est très difficile de recenser avec précision le nombre de morts. Vous avez raison, c'est une bataille encore du 18e siècle où malgré tout le canon ne fait pas autant de ravages que ensuite la mitraille va faire dans les autres batailles. Et Napoléon reste dans sa conception de la guerre un homme du 18e. Il n'a pas compris le sentiment national, que ce soit en Espagne, que ce soit en Russie, il n'a pas compris qu'il pouvait se reposer sur lui en France.
Merci Jean Tullard, je rappelle que vous avez consacré un chapitre à cette bataille dans votre livre Napoléon, les grands moments d'un destin, publié chez Fayard. À lire également Waterloo d'Andrew Roberts, publié aux éditions de Fallois. C'est amusant parce que c'est un historien anglais qui parle de cette bataille. Et puis Les trésors de l'Empérie, l'armée de Napoléon, par Vincent Bourgault, publié aux éditions de la revue Napoléon, un album de photographie de la collection Brunon, exposé au musée d'art et d'histoire militaire d'Ampéry. Enfin, sous le titre « Quel roman que ma vie », un coffret DVD consacré à Napoléon à travers 5 documentaires de Jean-François Coulon-Desart, disponible aux éditions Paramount. Vous avez pu entendre des extraits de l'excellent film de Sergueï Bondartchouk, donc Waterloo, en DVD aux éditions Columbia TriStar Home Video. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Jean-Philippe Jeanne et Julien Chabassu, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.